Moi, c'est André Limbujimai, Okata Oriental. J'ai réfuté totalement ce qui
est... Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Merci de nous accepter chez vous, mesdames et messieurs. Une fois de plus, merci de votre fidélité. À parole aux auditeurs, votre magazine d'échange citoyen sur Radio Capi, la fréquence de la paix. Trois journalistes de la presse présidentielle en garde à vue par le Conseil national de sécurité, CNES, depuis le samedi 25 juillet dernier. Selon la presse congolaise, ces journalistes sont soupçonnés d'avoir fait fuiter les derniers discours du chef de l'État sur la levée de l'état d'urgence avant sa diffusion à la télévision nationale. Quel regard portez-vous sur cette affaire? Pensez-vous que cette interpellation pourrait améliorer les dysfonctionnements constatés dans la presse présidentielle? Vous êtes près de 11 200 à avoir été touchés par ce sujet. 1000 parmi vous l'ont commenté et 150 l'ont partagé avec d'autres compatriotes ici au pays et à l'étranger. Merci de l'intérêt que vous accordez à nos différents débats proposés sur notre page Facebook à l'adresse pa@radiocapi.net. Rejoignez-nous et appelez-nous au 081 890 63 30 ou encore au 081 890 49 69 pour votre intervention en direct. Pierrot Lameji et Polydor Basunga concourent à la production et à la réalisation de cette émission, coordonnée et présentée par J.R. Lungembo Luabung Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Jean-Marie Kassamba, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'UNPC Kinshasa et en même temps patron de Télé 50 et aussi, disons, membre de la presse présidentielle de l'ancien président de la République, pour ne pas le citer, Joseph Kabila. Alors, vous avez suivi l'actualité avec nous. Comment avez-vous accueilli cette actualité?
Bon, je dois préciser tout de suite, collaborateur et conseiller en communication du président Kabila, président honoraire et... le patron du FCC, toute la majorité confondue naturellement, est congolais d'abord. Je pense que il est ici question d'expliquer d'abord comment ça se passe dans l'espace présidentiel lorsqu'il faut parler de la communication présidentielle. Il faut distinguer des choses. La première, c'est le mode opératoire en termes de communication présidentielle. La deuxième, c'est l'administration de la communication lorsque elle est dans la sphère présidentielle et surtout, quelle que soit même l'institution d'ailleurs. Alors, moi, en tant que président de l'UNPC Kinshasa, lorsque j'ai été informé effectivement de cette situation, la première des choses, c'est de m'enquérir de la situation auprès des responsables pour savoir ce qui est advenu de ses collaborateurs. Certains de la FTNC, d'autres qui étaient affectés à la presse présidentielle, d'abord du point de vue de leur situation, où est-ce qu'ils étaient, comment ça s'est passé, etc. Alors on m'a effectivement informé qu'il y avait soupçon des fuites des images du président, c'est-à-dire le discours avant publication, entre le moment de l'enregistrement et le moment de la diffusion à la FTNC. Alors, et il a été question de savoir qu'est-ce qui était à la base de cette fuite, de ces discours. Alors, pour expliquer d'abord comment ça doit être, il faut savoir que la communication présidentielle est régie par un caractère, on va dire protocolaire, qui respecte un certain nombre de codes. Mmh. Si c'est un discours qui revêt d'un caractère embargo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que à partir du moment où le président s'exprime, il y a au niveau de la décision hiérarchique le fait qu'il ne faut pas diffuser ses discours avant que ça soit diffusé sur la chaîne nationale. Et donc, il y a un embargo.
C'est ce que les journalistes appellent ligne éditoriale.
Oui, ça c'est-à-dire les protocoles. C'est les protocoles. Si cela a été dit, effectivement, les journalistes qui a fait fuiter ou les techniciens qui a fait fuiter, il a fauté professionnellement. Si ce n'est pas dit, il n'y a pas faute. De quelle manière? Parce que, d'abord, le discours lui-même, il était annoncé depuis 19h, 20h, 21h, 22h, c'est arrivé à la SNC vers minuit, 1h du matin. Ce qui veut dire que aujourd'hui, l'espace, l'Internet, les web, ça fait partie des supports de communication. Un responsable de communication qui aime ou qui aimerait rendre service à son patron, à partir du moment où le discours était attendu, et que lui, maintenant, il a le discours, il peut dire, je vais quand même servir d'autres supports de communication en attendant que ce soit diffusé sur la chaîne nationale. Et d'ailleurs, ce n'est pas tout le monde qui capte la chaîne nationale. Et donc, s'il y a eu cette démarche de rapidité, d'accessibilité, il n'y a pas faute. S'il y a intention volontaire de divulguer ces messages, ou plutôt ces supports, effectivement, il peut y avoir une erreur ou un manquement professionnel qui nécessite quoi ? Une punition, style blâme, style suspension, etc.
Mais ce n'est pas la première fois
mais
que
ça ne suscite pas l'interrogatoire, ça ne suscite pas la prison, ça ne suscite pas les cachots, ça ne suscite pas une procédure judiciaire.
Mais ce qui étonne Pudin, ce n'est pas la première fois, parce qu'on sait, on se souviendra d'ailleurs de la suspension d'un responsable de la communication à la présidentielle, disons au niveau de la présidence de la République, le fait qu'il publiait sur les réseaux sociaux et même certains documents de la présidence qui étaient déjà postés sur les réseaux sociaux. Est-ce que cette interpellation, cet interrogatoire ne peut pas donner voie à empêcher ces dysfonctionnements qu'on a dû constater?
Le plus important, c'est de dire d'abord que tout devrait être dit auparavant. C'est-à-dire, dès que vous embauchez des gens, il faut leur présenter les modus operandi, la manière de fonctionner, la codification de la communication présidentielle ou de tout organisme, parce que moi j'enseigne la communication, notamment à l'École nationale d'administration ici. Ce que j'ai dit à mes étudiants, c'est que la communication, c'est une procédure de transmission des messages d'un point A à un point B, avec naturellement les canaux qui est utilisé, le message qui est utilisé avec plusieurs cibles à atteindre. Mais dans les cas d'espèce, ce qui a été constaté, et d'ailleurs au fur et à mesure, ça se voit maintenant, c'est qu'on a embauché des bons professionnels, mais sans leur donner le mode opératoire. Je vous dis par exemple, quelqu'un comme Kasson Omema, c'est un grand professionnel de la com. Moi par exemple, mon diplôme de troisième cycle en relations internationales à Paris, c'est Kasson Omema qui m'a aidé dans la rédaction, lorsque lui-même faisait sa thèse de doctorat à Bordeaux. Et il est venu nous rejoindre à Radio France Internationale à l'époque avec Kitengelou Babou, etc. Il est devenu grand présentateur d'ailleurs de l'édition du matin.
Du matin, oui.
Etc. Donc c'est un grand professionnel. Une autre professionnelle, c'est Tina Sarama, qui était ici à tout Radio Okapi. Bonne professionnelle. Je peux en citer d'autres qui sont là-bas. Mais lorsque vous embauchez les gens et que vous ne leur donnez pas le mode opératoire, lorsque vous n'établissez pas les canevas de fonctionnement, ça pose problème en termes de procédure. Et si ces gens n'ont pas la logistique nécessaire pour faire le travail, parce que, par exemple, est-ce qu'il est nécessaire de faire venir le quart de reportage de la RTNC pour des messages de ces gens? Il faut tout simplement s'équiper en module de production de visuels autonomes au niveau du cabinet du président, c'est à huis clos avec un prompteur, etc. Ça peut fonctionner, ça ne coûte que moins de 50 000 dollars. Donc ce n'est pas l'argent qui manque, c'est tout simplement l'organisation qui pose problème.
Mais pourquoi ce genre de problème ne se pose pas sous d'autres cieux? Parce que quand nous regardons aujourd'hui le modèle de la communication présidentielle en France, par exemple, Macron qui veut parler, on se rend compte que même les attachés des presse qui sont à l'Élysée ou encore à Matignon, on sent comme si les journalistes ont déjà même la primeur du message.
Oui.
Et ils sont discutés dans leur chaîne privée.
Oui.
Les problèmes ne se posent pas. Mais alors, chez nous, également, il y a des...
Ils ne se posent pas parce qu'il y a la codification. Nous avons ici... Moi, j'étais accrédité à Matignon, j'étais accrédité à l'Élysée. Quand je voyage, même aux États-Unis, partout aux Nations Unies, on est accrédité. Et il y a ce qu'on appelle, dans notre profession... les us et coutumes, l'éthique et la déontologie professionnelle, qui nous dit quoi? Les secrets des sources. Lorsque vous m'accordez une interview, vous dites, on garde ça off. Off, ce que ça veut dire, c'est entre vous et moi. Mm-hmm. Vous pouvez l'exploiter en disant, la source a requis l'anonymat, n'est-ce pas?
Mm-hmm.
Chez nous, on embauche souvent des gens pour faire de la communication, on les considère comme étant des attachés de presse. On les considère comme des gens qui sont là pour faire de la communication, propagande, on leur dit pas ce qu'ils doivent faire, on ne leur explique pas le mode opératoire, on ne leur donne pas suffisamment les moyens pour faire le travail. Conclusion, les gens se débrouillent. Vous avez rappelé tout à l'heure que j'étais et je suis toujours avec le président Kabila pour l'aider pour la partie communication. Lorsque j'avais mis en place la structure de visibilité des 5 chantiers, révolution de la modernité, etc., j'étais en contact permanent avec le président Kabila. Jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Nous échangeons, il me donne ce qu'il pense, nous voyons ensemble comment on peut orienter tel ou tel sujet avec ce qu'on appelle les éléments du langage. Lorsque les collaborateurs ne sont pas en contact permanent avec la personne qui doit être un peu, je dirais, leur client en termes professionnels, ça pose problème. Lorsqu'il n'y a pas de débriefing ou de briefing, il y a des problèmes. Et troisièmement, lorsqu'il n'y a pas de synergie. Parce que on fait de la communication lorsque on sait qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message. Notre président, il a beaucoup de bonnes intentions. C'est quelqu'un qui parle bien. Regardez ses discours très souvent, c'est cohérent, etc. Mais est-ce que c'est préparé en amont? Est-ce que lorsqu'il fait ses discours, il termine? Est-ce qu'on débriefe pour lui dire, là ça a été bon, là c'était pas bon? Ensuite, les supports qui fait de la communication présidentielle, les éléments qui peuvent servir à ceux qui vont suivre le président ou son message d'une manière ou d'une autre, eh bien ces supports sont où? Ça fait bientôt plus d'un an que le président est en place, mais si vous demandez où sont les supports de communication, quels sont aujourd'hui les supports de communication du président, ça pose problème. Et donc, moi, j'ai fait un travail, mon travail à moi d'abord dans ces dossiers précis, c'est m'enquérir de la situation de ses collaborateurs. J'ai obtenu la libération de Giscard Koussema et puis...
Mais entre-temps, ces téléphones sont confisqués, semblait-il.
Oui, mais ça, c'est pour des raisons de sécurité. Ça ne devait pas se poser, des problèmes de téléphone, même...
Est-ce que les CNS étaient, si je peux utiliser le terme juge naturel de ces journalistes, pour enquêter réellement?
Bon, le CNS, par définition, s'occupe de la sécurité. Lorsqu'il y a un soupçon des fuites, soupçon de... Parce que c'est pas la première fois. Rappelez-vous qu'il y avait même une petite lettre circulaire là-bas qui interdisait maintenant aux journalistes de publier n'importe quelle image sans la validation d'un monsieur qui travaille là-bas. Ce qui n'est pas une bonne chose.
Oui, parce que c'est pas un secret. Il y a le numéro 1 du collège des conseillers en communication, Louaka Banga, et puis suspendu à un moment. Parce que ce n'est plus un secret.
Il l'était, et d'ailleurs la plupart aujourd'hui manquent des synergies pour faire un bon travail. Et cette situation rajoute encore au climat un peu de l'éther, parce que il y avait un peu là-dedans, comme qui dirait, des clans, le clan Caméré, le clan IDPS, le clan etc. Et ça a jeté.
Parce que les trois qui sont retenus, il semble-t-il, ils sont tous de l'UNC.
Oui, des caméristes. Bon, c'est ça les soupçons dont j'ai parlé. Et donc, la communication, c'est une démarche de confiance. C'est une démarche qui nécessite la vision transmise. Lorsque vous soupçonnez les collaborateurs de saboter, c'est ça le terme, votre vision, de vous tendre des pièges pour montrer que vous n'êtes pas efficace dans tel ou tel domaine, ça pose problème. Alors,
quelle est la solution à apporter?
Mais la solution, c'est que soit on redéfinit la communication présidentielle.
Soit on balaye.
Oui, c'est ce que j'ai dit en train de dire. On définit d'abord qu'est-ce qu'on veut faire de la communication présidentielle. On attribue les attributions aux vrais animateurs éprouvés qui ont de la compétence, pas des fanatiques, pas des gens qui sont là pour encenser ou faire de la propagande inutile. Ensuite, on leur donne des moyens matériels et surtout, il y a des contacts permanents avec celui qui a les messages à transmettre. Parce que si ça ne fonctionne pas de cette manière, il y a toujours de la cacophonie et ça se perçoit dans l'opinion. L'opinion va voir qu'il ne marche rien, même si les choses sont bien. Elles ne sont pas transmises et ça floue même, comme qui dirait la démarche.
Tout à fait. Alors, il y a des auditeurs qui nous ont rejoints, d'autres continuent à interagir sur notre page Facebook. Christian est à Kinshasa, Alain à Kalemi et Rostan à Likassi, 081-890-63-30 ou encore 081-890-49-69 si vous désirez participer en direct dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Christian Politassi, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour J.R. et bonjour à l'invité.
Vous êtes à Kinshasa. Quel est votre avis?
J.R., je crois que j'ai suivi religieusement l'invité, mais ce qu'il faudrait marteler, c'est le fait que lorsque l'on vous recrute dans une entreprise, dans un établissement ou dans un endroit quelconque, sur base de votre qualité ou titre, eh bien, vous devez avoir quelques ABC. Christian Politassi, c'est un juriste de formation et je suis chargé en planification. Lorsqu'on me recrute, par exemple, comme étant conseiller juridique, je dois connaître et maîtriser le méandre, je vais dire, de l'article 8 du Code civil livre 3. Lorsque on me recrute encore quelque part, je dois maîtriser et comprendre le méandre des dispositions de l'article 21 et 22 du Code pénal congolais. C'est-à-dire quoi, Pierre, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire que les journalistes qui ont été recrutés par la présidence, ce ne sont pas des amateurs. Ils savent les ABC du journalisme. Et lorsque votre invité nous dit, donc voilà, parce que ces gens-là, il n'y a pas eu un cahier des charges, il n'y a pas eu codification, tout ça. Non, mais c'est faux. L'autre fois, nous avions eu, comme invité, je crois, M. Félix Kabange, mais il a été plus professionnel. Pourquoi aujourd'hui, comme Jean-Marie, vient nous faire croire là-bas à la présidence? Il n'y a rien, tout ce qui est là-bas sont des amateurs.
Voilà, Christian. Notre invité ne l'a pas dit, donc il ne faut pas peut-être aller plus loin. Mais il a plutôt expliqué comment fonctionne la communication présidentielle, avec le respect de code, les modes opératoires, et puis l'administration, la communication. Il faudrait quand même avoir un respect. Comme vous l'avez utilisé le terme, les ABC. Est-ce que la communication ordinaire, c'est la même communication présidentielle, selon vous?
J.R., c'est vrai qu'il y a une certaine différence. Je vous dis déjà, mais les bases sont les mêmes. Parce qu'ils savent qu'un journaliste est obligé d'avoir un secret professionnel. Et même là-bas, dans la presse présidentielle, cet état des choses existe. Ce que nous déplorons aujourd'hui, c'est le fait que ces gens-là, soit ils servent deux maîtres. Voilà. Ils posent des actes pour chercher à nuire leur chef. Et c'est clair. Il ne faut pas chercher d'autres raisons ailleurs, J.R. Lungembo. Ce qu'il faudrait faire pour éviter ce genre de choses, parce que ça, ce n'est pas une première. Je crois que vous l'aviez également rappelé.
Évoqué, oui.
Ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord de sanctionner catégoriquement ces gens-là, afin que ce genre de choses ne se répètent pas. Parce qu'aujourd'hui, ils font ça dans la présidence. Demain, ils seront peut-être avec vous chez Radio Okapi. Ils pourront continuer avec ce genre de choses. Or, les secrets professionnels doivent être de mise. Il faudrait d'abord commencer à écarter ces gens-là. Et vous savez, hier, que là-bas, au sein de la présidence, il y a en fait une sorte de camp. Pour voyager, vous devez être naturellement ou obligatoirement de l'INC pour couvrir un événement. Et ça a été ça. En fait, les choses ont semblé changer depuis que Kamere n'est plus. Nous ne sommes pas contre les gens de l'INC, mais il faut quand même qu'il y ait cet équilibrage. Il faut quand même qu'il y ait ces sursauts. Lorsque vous arrivez, vous oubliez que vous êtes d'un camp politique. Vous êtes là pour servir la nation. Et c'est ça qui doit être fait.
Peut-être nous n'avons pas d'éléments, comme vous venez de le dire là, que effectivement il y a cette discrimination ou le clientélisme. Les gens travaillent pour leur parti politique. Bon, là, l'autre invité a évoqué cet aspect des choses. Merci beaucoup, Christian, d'avoir appelé de Kinshasa. Alain, vous êtes à Kalemie. Bonjour, Alain.
Oui, bonjour, Radio Capi. Ce n'est pas Alain, c'est Ali Mouchaba Joseph.
Oui, Maître Ali, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup Radio Capi pour le droit de la parole. Personnellement, j'ai été contre l'arrestation de ces journalistes qui je considère de fantaisistes et superfectatoires. Pourquoi? Parce que j'ai constaté personnellement que nous, aujourd'hui, Congolais, nous sommes victimes de méandres politiques. Et nous pensons qu'un état de droit, c'est celui dans lequel on arrête les gens en désordre sans tenir compte du juridique. Mais plutôt, un état de droit, c'est celui dans lequel la loi domine la volonté de tous. Pour son applicabilité, on doit tenir compte de toutes les procédures légales pour que nous puissions parler d'un état de droit. Aujourd'hui, on nous parle des dysfonctionnements à la presse et nous disons non, ces gens sont arrêtés. Bien sûr, lorsqu'on commet une infraction, c'est comme si on contracte une dette qu'on doit payer par une sanction. Mais la sanction importera peu si ces journalistes sont des boucs émissaires. Nous, il faudra mener des enquêtes de manière à arrêter les vrais coupables. Personnellement, je considère ces journalistes comme étant des boucs émissaires. Pourquoi? Parce que ce n'est un secret pour personne. Qui ici au Congo, il y a des machinations, il y a des conjurations qui tendent à salir la personnalité de notre président de la République. C'est ainsi que moi, personnellement, je souhaiterais tellement que ces gens-là sont arrêtés, qu'on puisse mener les enquêtes probantes afin que la vérité éclate. Et par voie de conséquence, que ces gens-là soient condamnés pour autant que les éléments attestant leur culpabilité soient établis en fait par un droit et qu'ils soient également acquittés si et seulement si c'est reconnu après les enquêtes que ces gens-là ont été innocents. Et si on les sanctionne, monsieur le ministre, l'amélioration au niveau de la presse,
ça,
pourquoi? Parce que les vrais auteurs sont là et aujourd'hui, la justice a tendance à condamner les innocents et à arrêter
les coupables. Voilà, merci beaucoup.
Comment l'État parviendra à toutes ces antisocialités? Nous devons faire en sorte que les vrais auteurs soient punis. Arrêtés.
Merci beaucoup, et Ali. Merci beaucoup. Alors, on va prendre Rostand de Likassi. Rostand, vous êtes avec nous? Rostand, vous êtes à Likassi? Voilà, il y a Faciel, Félicia, la belle Katumu, qui nous écrit depuis Kananga, au Kasaï central, et dit les journalistes doivent comprendre le pourquoi ils sont engagés à la présidence, car la présidence est une institution suprême du pays, et tout n'est pas permis de dévoiler, sans le mot d'ordre de leur chef hiérarchique. Une petite erreur commise peut amener notre pays dans l'instabilité totale. Le président de la République a des ennemis partout et ce sont des gens appelés de la presse qui doivent le protéger, mais ils ne le font pas. Ils ne font que livrer aux ennemis. En tout cas, ces journalistes doivent être punis et être chassés de la présence de la République. Ça, c'est un peu trop fort. Alors, Jean-Marie Kassamba, vous avez suivi ces intervenants. Quelle est votre réaction?
Bon, d'abord, je dois rassurer notre premier intervenant que j'ai dit et je répète que la communication présidentielle, c'est différent de la presse présidentielle et c'est différent du conseiller en communication. Il faut faire de la communication une démarche. Quand je parle de modus operandi, de la codification, en langage simple, ça veut dire quoi? Il faut d'abord ce qu'on appelle les job description. C'est-à-dire le listing des tâches et comportements à offrir à celui qui veut ou qui va être votre collaborateur en matière de communication. D'abord, le cahier des charges. Et ça va correspondre à son CV. Ensuite, il faut lui donner les moyens de faire ce travail. Et puis, il faut mettre en place une démarche qui consiste à lui permettre de faire ce travail efficacement. Qu'est-ce qui se passe en général chez nous en Afrique et principalement ici au Congo? Les ministres, les responsables, le président, tout ce que vous voulez, lorsqu'ils ont des conseillers en communication, les attachés de presse, etc., ils les considèrent comme des collaborateurs qui sont là, qui doivent deviner des choses. Il y a une audience, il couvre l'audience, il fait des images, il fait des petites interviews, il fait un petit papier, il envoie aux journalistes, etc. Ils ne prennent pas le temps de parler avec. Ils ne prennent pas le temps d'écouter les remarques. Ils ne se comportent pas en conséquence. Comment s'habiller? Comment parler? À quel moment? Comment rectifier un message lorsqu'il a été mal transmis? On doit publier tel document à quel moment et de quelle manière? Tout ceci parce qu'ils pensent qu'ils sont des chefs. Et donc, le chef, il n'a pas à, subir les recommandations de ses collaborateurs, parce que il y a deux collaborateurs qui sont très importants pour un président. C'est d'abord son chargé d'image, communication, image. Parce que un président qui donne une mauvaise image à travers l'opinion, cette image a des répercussions sur ce qu'il fait. Deuxièmement, un président a comme collaborateur le plus précieux, c'est celui qui s'occupe du droit. Parce que ce qu'il pose comme acte en matière des droits, ça a des conséquences immédiates sur la légalité, la crédibilité, je dirais même les conséquences de ce qu'il va poser comme acte. Et accessoirement, vous allez trouver c'est de la sécurité parce que son intégrité physique, etc., etc. Et donc, dans ces dossiers-ci, il y a ce qu'on appelle faute professionnelle parce qu'il y a une fuite, mais il n'y a pas faute grave qui nécessite une procédure judiciaire parce que d'abord, nous sommes dans un monde des communications.
Parce que l'information diffusée n'est pas très dangereuse.
Oui, d'abord, ce n'était pas une information confidentielle, ce qu'on appelle le secret d'État. C'est, le président devait parler pour la levée de l'état d'urgence. C'était attendu depuis 21 heures. Et aujourd'hui, les médias sont partout.
Et la RTNC nous a habitués à, dans quelques instants,
Oui, bien évidemment, dès 19h à 1h du matin, c'est pas possible.
Non, mais c'est pas quand même professionnel, ça.
Non,
excusez-moi si je peux utiliser ce terme qui est un peu fort.
Non seulement c'est pas professionnel, ce n'est pas efficace.
Parce que le terme dans quelques instants, bon, tout de suite ça renvoie, on dit, ben, c'est dans quelques minutes qu'on va, nous balancer un flash.
Ça ne sert à rien d'annoncer quelque chose dont vous savez qu'on ne sait pas à quel moment ça va sortir.
C'est la communication entre la présidence et les
Il aurait fallu, d'abord, que le message soit enregistré, programmer et donner l'heure. La bande passante, elle sert à ça. Parce que, bon, excusez-moi du peu, les gens ont encore les réflexes du passé, de pensant que tout le monde regarde que la RTNC, etc. Non, il y a des médias, des multiples médias à travers le monde, et que l'info chasse l'info. Lorsque vous avez annoncé pendant 2 heures, dans quelques instants, les gens ont leur attention ailleurs. Et donc, ce n'était pas une faute grave en matière, on va dire, professionnelle. C'est une faute en termes de fonctionnement. Pourquoi ? Parce que, comme un des auditeurs l'a dit tout à l'heure, bien évidemment, il y a un secret professionnel. Mais il faut évaluer ce qu'on appelle secret professionnel. C'est comme les gens qui disent aujourd'hui, vous êtes devant la RTNC, prenez pas la photo. Vous êtes devant l'aéroport, on ne prenez pas la photo, mais vous avez Google Maps, vous avez aujourd'hui les technologies. Il suffit pas de prendre la photo. La photo, on peut la voir partout où on veut. Dans notre pays, il y a tout simplement une question de confiance. Les Congolais ne se font pas confiance. Les clans dont on parle, il y a des clans partout.
Tout à fait.
Si vous allez à la Maison Blanche, vous voyez que Trump travaille avec sa famille, travaille avec certains collaborateurs. Il a beaucoup viré des collaborateurs. Tous les 2 mois, il vire des collaborateurs. Il vient de changer même son équipe de campagne. En France, c'est la même chose. Moi, j'avais mon amie qui était la fille de Jacques Chirac, Claude, qui faisait la com de son père. Et qu'est-ce qu'elle m'expliquait ? Même Claudia Sassou Nguesso fait
la
com de son père, c'est une amie également. Qu'est-ce qu'elles me disent, ou qu'est-ce qu'elles m'ont dit à cette époque-là ? Nous fonctionnons sur base de confiance. Si le président de la République n'a pas confiance en ses collaborateurs en matière de communication, ça ne sert à rien de les garder, et ça ne sert à rien d'avoir de la méfiance. À chaque fois qu'il pose des
marques. Il y a un auditeur qui nous pose un peu la question. Il dit, ben, expliquez-nous, est-ce que le chargé de communication n'est là que pour aller lire les ordonnances ? Et nous remarquons également que ce sont les membres de la presse présidentielle qui font autant, c'est-à-dire lire aussi les ordonnances. Ben alors finalement, quel est leur travail ?
Vous l'avez parlé de job description. La communication présidentielle, c'est pas les ordonnances.
Et le porte-parole ?
Le porte-parole n'est pas là que pour lire les annonces des ordonnances. Le porte-parole porte la parole du président en tout lieu.
Il est membre de la communication.
Bien évidemment. Il faut séparer.
Ce n'est pas un service à part.
Non.
La communication.
Le porte-parole du président, c'est comme son secrétaire particulier. C'est la personne qui porte la parole du président. Ça veut dire quoi ? Au lieu que le président parle tout le temps, c'est lui qui parle à sa place. Et de ces faits, il doit être en contact permanent avec le président. Moi, j'ai vu à plusieurs reprises, le porte-parole restait, le président voyage. Ce n'est pas de cette manière-là que ça doit se faire. Le porte-parole doit avoir tous les éléments d'appréciation, tous les éléments du langage. Et c'est le porte-parole qui parle peu, mais qui parle régulièrement pour que les gens sachent que même si le président ne parle pas, c'est le porte-parole qui a porté cette parole. Mais le chargé des communications, les conseils en communication, les directeurs de la communication présidentielle, il est dans la conception.
Il n'est pas opérationnel.
On ne le voit pas.
On ne le voit pas.
On ne le connaît pas.
Mais c'est pratiquement ce que nous voyons. On ne comprend plus.
Mais c'est malheureux parce
que tous les conseillers sont sur le terrain.
Non, mais c'est parce que c'est ça ce qu'on appelle mélange.
C'est
ça ce qu'on appelle le mélange des genres. Chez nous, on aime bien les matuvus. Il faut qu'on me connaisse. Il faut qu'on voit que c'est moi. Vous êtes directeur de la communication. Vous faites le reportage. Ce n'est pas votre métier. Votre métier, c'est de concevoir la démarche présidentielle, la communication du président, les supports de communication, les sites internet,
ce qu'on appelle le contenu,
les rendus, Lorsque le président termine une cérémonie, c'est vous qui concevez ce qu'on appelle les supports à donner à la presse ou aux collaborateurs pour qu'ils puissent s'imprégner de ce qui a été fait, mais ça doit être écrit dans un angle selon la vision du président. Or, chez nous, soit on ne donne pas les moyens à ces gens, et d'ailleurs, ils n'en ont pas, je suis bien informé.
Voilà.
Et deuxièmement, ces gens-là, parce qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas les quitus politiques, ils essayent de meubler. Et quand vous meublez, vous avez le risque de commettre des erreurs. Et c'est qu'on a vu dans les cas d'espèce, parce que dans les arrêtés, il n'y a pas que des journalistes. Il y a trois journalistes. Il y a beaucoup de techniciens, de caméramens, etc.
Qui sont dans la même situation. Alors, on va retrouver Rostan, qu'on a dû louper tout à l'heure. Rostan, vous êtes avec nous?
Oui, allô?
Oui, allô? Rostan, vous avez la parole. Vous êtes à Likassi, à Kolwezi.
Je suis à Likassi. Je profite pour saluer l'invité.
Merci beaucoup. Bonjour.
Oui. J'ai dit, cette situation est inquiétante. On se rend compte qu'il y a une légèreté dans la gestion des informations à la présidence. JR, nous devons savoir qu'il s'agit ici de la présidence. Et si nous devons continuer à dire que c'est une erreur qui n'est pas vraiment grave comme l'invité le dit, moi je dis que l'enfant qui a mis le doigt dans le miel ne mettra pas qu'une seule fois. Et je pense qu'un jour on risque d'assister à une émission où on va maintenant commencer à dire quels sont les effets des erreurs qu'ils auraient commis. Et moi, je pense qu'on doit décourager ces journalistes avec dernière énergie, parce que un jour, on risque d'assister à un grand problème. Et personnellement, je demande à l'autorité en charge du Conseil national de sécurité et même à celui de la presse présidentielle de s'attaquer vraiment au vrai problème de la presse. Parce que il ne s'agit pas ici de dire que ils ont fuité. Il faut savoir pourquoi ils se sont
parce que notre invité a parlé disons que ce n'est pas une faute grave, dès lors que c'est une information qui n'est pas confidentielle. Ça, c'est de un. Et puis, oui. C'est un message qui devait être, que tout le monde attendait, et la RTNC a mis du temps pour la diffuser, pour le diffuser. Et ça a profité à ceux qui travaillent au niveau de la présidence, qui sont soit attachés des presses ou, qui représentent des chaînes privées. Ça ne pouvait qu'être là. Mais si je comprends votre souci, c'est que si on n'est pas fidèle, nous revenons encore sur la question de la confiance. La communication est basée sur la question de confiance. Si on n'est pas fidèle dans les petites choses, on ne les sera pas dans les grandes. C'est-à-dire, si on ne comprend pas les modus operandi, finalement, on va divulguer même l'information qui est top secret, mais on dira, bon, parce qu'il n'a pas été codifié.
Oui, c'est ça. Et comme nous savons toujours ici dans notre pays, après des événements, on a toujours tendance à faire un problème politique. Et à la fin, on dira, non, c'est parce qu'il était du côté de...
C'est
ce que nous sommes en train de... Oui, c'est ce que nous sommes en train de critiquer ici et nous décrions. Il faut punir ces gens sévèrement. Mais dire que ce n'est pas une faute grave, ou ça serait une faute grave si c'était un message entre président de la République, ou ce n'est pas ça. Il faut punir, parce que quand on commence comme ça, c'est-à-dire qu'on avait déjà commencé avant et qu'on est en train de gravir des échelons. Il faut punir. Et moi, je demande personnellement, j'insiste beaucoup aux conseillers du président de la République qu'il faut s'entourer des personnes. Pas des têtes connues, non, des têtes pensantes. Ces gens-là doivent être punis.
Merci beaucoup, Rostand. Alors, Félicia, vous êtes à Kananga. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez la parole, Félicia.
Oui, merci beaucoup. Je salue tous les choses invités et présents.
Merci beaucoup.
Bonjour. Je vous remercie d'abord pour ce thème ici. Je m'en vais d'abord pour dire à ces journalistes, en général, tous les journalistes pour leur dire que quand vous acceptez de travailler dans un cabinet politique, il faut savoir gérer les émotions et savoir aussi quoi dire et quoi parler. Et concernant les journalistes qui ont fait cet acte-là, moi j'aimerais que ces journalistes soient d'abord punis pour donner la leçon aux autres et voir même toutes ces chaînes-là, et toutes ces personnes qui ont fait à ce que le message du président soit divulgué avant même son message, avant son adresse.
Oui, Félicia, quand je découvre votre message sur notre page Facebook, vous avez beaucoup plus insisté sur la compréhension du travail qu'on vous confie. Parce que vous dites, les journalistes doivent comprendre le pourquoi ils sont engagés à la présidence de la République. Donc vous avez l'impression que ceux qui travaillent, ils n'ont pas n'ont pas bien compris leur job description.
Oui, c'est ça quand même. Vous savez, la présidence n'est pas un club d'amis ou un groupe de fraternité quand même. mais c'est la vie de tout un pays. Et on a la même vision, tout ce qui est de bon et de mauvais du pays. Le journaliste qui a accepté de travailler dans la présidence devrait savoir pourquoi ils sont là et comment ils doivent travailler. Mmh. Je ne sais pas s'ils ont été éduqués par leur chef, le directeur de la communication. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il les avait, qu'est-ce qu'il avait dit et comment a été leur job description avant d'accéder au travail, de commencer le travail. Et il faut, j'aimerais qu'il soit d'abord fini et aussi voir même le directeur de la communication. Il est aussi un. Je comprends. L'invité dit c'était d'un message attendu. Ça, pas de problème. Mais lorsque le président n'a pas encore dit mot, on ne peut jamais divulguer une information venant de la présidence. C'est du secret et c'est du sérieux. Ça peut donner la vie ou bien ça peut révolter ou bien ça peut donner la mort. En tout cas, si j'arrive à conclure que si ces gens ou cet acte n'est pas impuni et si cet acte ne reste pas impuni,
ça serait dangereux pour l'avenir.
Le président de la République s'attend à un coup d'État bien préparé avec tout prêt. Voilà.
Merci beaucoup, Félicia, d'avoir appelé les Kananga. Voilà, parce que c'est quand même une préoccupation directe qui me renvoie quand même à poser la question. Est-ce que il faut bien expliquer la communication, la presse, tout ça, pour que finalement les choses soient claires?
Écoutez, il ne faut pas mystifier la communication présidentielle, le message du président comme étant quelque chose qu'il faut garder secret à tout prix, à tout moment, etc. Ça ne se passe pas comme ça. J'ai une petite expérience d'une vingtaine d'années avec les chefs d'État. La communication, c'est le dosage du message à transmettre à l'opinion ou à certains interlocuteurs à un moment donné. Il y a des informations qui sont transmises avant, qui sont transmises après, qui peuvent être transmises quelques mois, quelques jours après. C'est le dosage de tout ça qui fait que la confiance, tout est sur facteur confiance entre les collaborateurs en matière de communication et l'auteur de cette communication. Dans les cas d'espèce, le président prononce des discours. Ces discours doivent être, comment dire, vulgarisés, diffusés. Et le professionnel de la com a à sa disposition autant de supports de communication. C'est lui qui dose. Aujourd'hui, quand un président comme Trump, comme Macron, comme je ne sais pas qui, tweet, il tweet d'abord d'une manière instinctive, c'est ce que les gens pensent, mais il tweet sur base de ce qu'ils ont défini auparavant avec ses conseils en communication. Ils disent, ça, vous pouvez tweeter à partir de votre téléphone. Il y a même des gens qui tweetent pour lui. Ils créent des Facebook, comme Moïse Katoumi, par exemple. Il y a des Kamita, tous les autres qui ont des profils en son nom, qui tweetent. Et les gens pensent que c'est eux, c'est Katoumi qui a tweeté, ou c'est Macron qui, ou l'autre qui a tweeté. Et on dit ça, on fait passer par le tweet, ça on fait passer par le communiqué, ça on fait passer par le message audiovisuel, etc. Et quand je parle ici que chez nous, il aurait fallu, et je précise, il aurait fallu, un, éviter le recrutement par, allez, convivialité.
Félicien a parlé de groupe de fraternité.
C'est ce que j'ai dit.
Club d'amis.
Je parle quoi, convivialité. Et d'ailleurs, il n'y a pas seulement en matière de communication. Même certains conseillers en économie, en finance, des investissements, etc. C'est par convivialité, par... je n'utilisais pas les termes copinage, c'est un peu trivial. Par...
amitié.
Service, ou amitié, service rendu, etc. Et lorsqu'on recrute comme ça, on est moins rigoureux en matière de modus operandi, en matière de cahier des charges, en matière de job description, en matière de redevabilité, en matière même d'efficacité. Parce que si vous avez recruté quelqu'un qui vous a rendu des services, ou c'est parce que quelqu'un de votre parti, ou parce que c'est un militant qui est tellement convaincu, ou quelqu'un de votre famille, vous aurez de moins en moins de touper, de lui demander des comptes, ou même de lui exiger à tout moment des rapports pertinents, parce que vous dites, bon, c'est quand même quelqu'un qui m'est proche, vous lui pompez, enfin, il a des titres pompeux, mais en réalité, il fait pas le travail. Il fait faire ses travaux par d'autres. ou il ne le fait pas du tout. Et quand bien même il essaie de faire ce travail, il va le faire d'une manière instinctive. Et c'est ce qu'on a constaté. Ces dysfonctionnements, c'est suite, un, parfois au recrutement des complaisances. Deux, au manque de moyens logistiques, et je sais de quoi je parle.
Tout à fait.
Trois, c'est au manque de briefing, débriefing. Maintenant, on peut tout mystifier, on peut dire, voilà, c'est la communication présidentielle, il faut la garder secrète, etc. Oui, mais c'est pareil pour la sécurité. C'est pareil pour la sécurité. Lorsque, en matière de sécurité, vous avez recruté des gens qui ne sont pas des grands professionnels de sécurité, lorsqu'il y a, il y a des incidents, des petits incidents de sécurité, il peut y avoir des fautes. C'est pareil en matière juridique. Il y a des lettres qu'on a vues dans la presse avec des fautes des Français dedans. Ou certains procédés qui se sont passés, regardez le procès de 100 jours, des dysfonctionnements qu'on a constatés. Donc tout ceci découle d'une certaine rigueur qu'il faut appliquer à la démarche. Malgré les bonnes intentions.
Mais il
ne
faudrait pas que dès le départ qu'il y ait déjà des barrières entre vous et votre collaborateur. Là, ça pose déjà problème.
Ça, c'est capital. Ça, ouais. Ça, c'est capital. Vous savez, moi, j'enseigne également ce qu'on appelle les relations publiques. Qu'est-ce que ça veut dire, relations publiques? Ce sont des relations de confiance entre le patron et les différents publics. Il n'y a pas seulement la presse. Il y a aussi les syndicats. Il y a aussi la population. Il y a les étudiants. Il y a les collaborateurs. Il y a la communication interne et externe. Lorsqu'il n'y a pas une relation de confiance, il y a beaucoup chez nous ce qu'on appelle le pouvoir pyramidal. Le chef considère qu'il est chef et donc les autres doivent exécuter. Ça ne fonctionne pas. Surtout que nous sommes dans un monde de communication instantanée. À l'époque, on faisait des notes, on faisait des réunions, ensuite il y a des comptes rendus, ensuite on va... Non, aujourd'hui avec le téléphone, avec l'internet,
etc. On peut travailler à distance.
Eh bien, si vous accréditez déjà la présidente de la République, vous n'allez pas les checker à tout moment. Vous allez, il y a une cérémonie quelque part, eh ben, les personnes avec leur téléphone, ils prennent les images, ils font les petits commentaires, ça passe. Les collaborateurs, notamment au niveau du cabinet du chef d'État, c'est eux qui servent de relais aux différentes sources pour faire passer le message.
Si vous le permettez, Jean-Marie, on va accueillir d'autres auditeurs, oui. Fariel et Peter, mais nous rappelons à ceux qui viennent d'appeler de l'Ouest, vous êtes nombreux, en tout cas plus de 15 000 à avoir lu, près de 15 000 pratiquement, à avoir été touchés par ces sujets, et 2 000, en tout cas en ce moment, je constate déjà sur la page Facebook qu'on est à 2 000 qui l'ont partagé et commenté, et merci de l'intérêt que vous accordez, mais ceux qui viennent d'appeler de nous rejoindre, ils peuvent aussi participer directement en composant les 081 890 63 30 ou encore les 081 890 49 69.
Radio Okapi poursuit la diffusion de ses programmes en mode télétravail, toujours dans les cadres des mesures préventives contre le coronavirus. Retrouvez toutes nos émissions interactives du lundi au vendredi. Okapi Service des 10h à 11h, rediffusion des 20h à 22h, heure de Kinshasa. Parole aux auditeurs, PA. Du lundi au vendredi des 13h à 14h, rediffusion des 22h à 23h, heure de Kinshasa. Dialogue entre Congolais, DEC, du lundi au vendredi des 19h15 jusqu'à 20h, rediffusion le lendemain matin des 4h45 jusqu'à 5h30, heure de Kinshasa. Radio Capi vous présente toutes ses excuses pour toutes sortes de désagréments et perturbations constatées durant notre antenne. Radio Capi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Capi. Si vous nous rejoignez, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre cadre d'échange citoyen sur la fréquence de la paix. Fariel, vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour M. JR et bonjour aussi à Jean-Marie Kassamba.
Bonjour.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, M. JR, c'est une défaite que nous n'avons pas supportée vis-à-vis de la presse présidentielle. Nous voulons voir ces journalistes être punis sévèrement par la loi, car le journalisme est un métier noble et discipliné, mais ils n'ont pas respecté la déontologie et l'éthique professionnelle. Ces interpellations améliorent déjà ces dysfonctionnements constatés au sein de la presse présidentielle. Et l'erreur aussi, c'est de recruter n'importe qui comme journaliste C'est ainsi que nous contactons ces moutons noirs à la presse.
Oui, 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 mais Fariel, il faut quand même noter que les confrères qui sont là-bas, notre invité l'a dit tout à l'heure, ce sont des journalistes de haute facture. C'était pas une sélection aléatoire, mais c'est pratiquement par rapport à leur cursus, par rapport à leur savoir-faire et aussi par rapport à l'expérience. Aujourd'hui, ils sont comptés parmi des grands journalistes de ce pays. On leur doit beaucoup de respect aussi. Mais s'il y a eu ce dysfonctionnement, nous cherchons comment corriger. Et nous avons suivi d'ailleurs notre invité qui nous a donné quelques éléments. Il y a ces problèmes de moyens, il y a ces problèmes de confiance, il y a ces problèmes de recrutement aussi. Parce que c'est vrai, on peut avoir les cursus appropriés, mais ne pas être à même de pouvoir faire le travail qu'on vous demande en ce moment-là. Donc cela ne veut pas dire que vous êtes moindre que celui qui va le faire. Donc chacun ne peut pas, tout ne peut pas faire tout à la fois. Voilà, merci beaucoup Fariel. On va prendre Peter de Chicapa. Peter, vous êtes avec nous?
Oui, je suis en ligne, monsieur le journaliste.
Vous avez la parole, Peter.
Oui, merci beaucoup. En dehors de ce que notre invité vient d'évoquer, selon ce que vous venez de dire, monsieur le journaliste, en dehors de l'équipement, et aussi en dehors de ce que vous avez qualifié de l'expérience que nos collègues qui sont à la présidence, commis à la présidence de la République pour de la presse, vraiment, je suis vraiment désolé. Nous sommes vraiment désolés du fait que les secrets d'État soient donc au public, au vu de la population, de n'importe qui. Vraiment, c'est très désolant de ce qui se passe actuellement.
Oui, mais Peter, qu'est-ce que vous appelez secret d'État?
Non, mais...
Qu'entendez-vous par secret d'État?
Oui, monsieur J.R., il vous souviendra qu'avant que le chef se prononce, ce que le chef voudrait dire, ça puisse être déjà à la portée de tout le monde. Et aujourd'hui, vraiment, monsieur J.R., les réseaux sociaux ne constituent pas le moyen de communication, surtout pour les hommes d'État. Quand on accède à une fonction d'État, on doit obéir aux règles et aux principes qui doivent faire de sorte que l'État soit garanti, la sécurité de l'État soit garantie. Le fait de dire d'abord, de prononcer, de faire sur les réseaux sociaux ce que le président devrait dire, cela constitue une entrave et à l'infraction des publics, aussi au secret d'État. Vraiment, monsieur J.R., je constate...
Voilà. Donc, vous persistez à signer que c'est pratiquement un secret d'État. Donc, ce n'est pas un message ordinaire. Voilà, merci beaucoup. Alors, réaction directement, parce que c'est...
Écoutez, je rassure notre auditeur que les réseaux sociaux font partie aujourd'hui...
C'est comme des paparazzis, hein.
Non, je veux dire, les réseaux sociaux sont partie aujourd'hui des canons de distribution des messages, et même... D'ailleurs, les présidents comme Trump, comme Macron, comme beaucoup de présidents aujourd'hui, communiquent essentiellement sur les réseaux sociaux que sur les voies classiques.
Traditionnelles.
Parce que le message doit parvenir aux cibles le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, il y a eu des problèmes ici au Congo parce qu'à un moment donné, on a négligé les réseaux sociaux. Donc, pensez que un président de la République ou une personnalité peut se passer des réseaux sociaux ou dire que non, c'est pas important. Non, c'est très important. Maintenant, il y a un problème d'organisation, d'agencement, de ciblage, de segmentation. Voilà le terme. De segmentation des canaux par lesquels je vais faire parvenir mon message. Et j'ai dit que, je répète, que ce qui a été fait entre le moment de l'enregistrement du message et le moment de la diffusion à la TNC. Si ce n'était pas dans l'intention de nuire avec des images désobligeantes, ce n'est pas une faute. C'est une façon de combler ce vide pendant un certain temps. Maintenant, parce que pourquoi les gens disent que c'est secret, il faut garder, etc. Parce qu'il fonctionne selon les paradigmes du passé. Où, pour que le message soit officiel, il faut qu'il soit diffusé sur la TNC. Non, aujourd'hui, le président de la République peut user de tel ou tel canal de diffusion pour transmettre son message, et même la RTNC peut reprendre ce que le président a fait. Donc, les gens qui pensent que la RTNC, ou plutôt les chaînes nationales, en France par exemple, il n'y a pas de chaînes officielles. Il y a des chaînes publiques, comme France Télévisions, France 2, etc. Mais si Macron a envie de transmettre un message important,
on va conclure
il passe
émission.
Par TF1, il passe par
France 2,
France 2, par Europe 1, etc. C'est comme ça. Donc, il faut que dans notre pays, qu'on évolue avec le temps. Les réseaux sociaux sont importants, mais le journaliste doit avoir d'abord ce qu'on paye le cahier des charges, d'être en confiance avec son chef. Il doit avoir les moyens logistiques pour faire le travail. Et puis, il faut qu'on évite toujours ce recours à la RTNC, au quart des reportages de la RTNC. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, on peut, le président fait fonctionner d'une manière autonome avec un équipement à lui. Il peut même mettre une antenne chez lui et mettre à partir de lui pour être en connexion avec la RTNC. C'est un problème. Donc, il faut que ces journalistes, moi j'ai remercié les officiels qui m'ont accordé leur libération en tant que leur président, c'était déjà une très bonne chose. Maintenant, pour la suite, pour que cette communication soit efficace, il faut qu'on change le mode opératoire. Sinon, ça ne sert à rien.
Voilà. Alors, on va écouter rapidement Albert et puis Jean-Marie et Célestin. Albert, vous êtes avec nous? Albert, vous êtes à Kisangani? Voilà. Jean-Marie, vous êtes avec nous?
Oui. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour,
Claude. Vous êtes à Butembo?
Bonjour.
Vous avez la parole, Jean-Marie. Vous avez une minute.
Oui, moi je dirais ce que les journalistes ont fait, vraiment ça révèle déjà l'incompétence qu'ils ont dans leur métier. Parce que
non, mais Jean-Marie, utilisons quand même des termes un peu moins forts, hein, sinon, parce que bon, ce sont quand même des grandes personnalités aussi, et quand vous les qualifiez des incompétents, bon, moi je dirais peut-être le contraire. Ce n'est pas un débat entre toi et moi, mais bon.
Ok,
Oui.
Parce que, vous voyez, la présidence, c'est tout un pays. Malgré ils peuvent diffuser, mais il faut qu'il y ait l'autorisation. Lorsqu'on condamne qu'ils ont fait du mal, c'est-à-dire il y a quelque chose qui ne va pas. Ouais. La presse présidentielle, c'est une porte d'entrée ou bien de sortie aussi des communications des ennemis. Ça peut passer comme ça.
Merci.
Alors,
beaucoup.
Il fallait que ceux qui travaillent là-bas aient d'abord la capacité d'avoir le secret. Il faut qu'il ait d'abord le secret en lui avant de diffuser. Il faut qu'il se concerte avec l'administration. On peut diffuser ou on ne peut pas diffuser. Là, ça ira bien.
Merci beaucoup, Jean-Marie. Alors, Célestin, vous devez aussi placer juste un mot avant qu'on puisse conclure avec notre invité. Célestin?
Ah oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre contribution?
Ma contribution est celle-ci. On aura toujours les problèmes de fuite d'information parce que les problèmes de fuite d'information, ce n'est pas un problème propre à NRDC. Avec la nouvelle technologie et le journaliste d'investigation, il va vers les fonctions. Maintenant, la présidence doit prendre des mesures pour protéger ce système à l'intérieur.
Merci beaucoup, Célestin. Alors, Jean-Marie Kassamba, patron de Télé 50 et président de l'UNPC Kinshasa. En conclusion,
nous étions très inquiets parce que non seulement il y a eu quelques journalistes arrêtés quand même, à travers le pays, certains membres même de la TNC s'inquiètent un peu d'une certaine censure, mais bon, il faut prouver un peu tout ceci. On est en train de faire un travail de réajustement avec notamment les autorités. Ces problèmes de dysfonctionnement au niveau de la présidence, vous avez vu qu'à un moment donné, il y a eu même d'autres courriers, d'autres documents qui ont fuité, etc. C'est d'abord une question de mode opératoire, une question de confiance, une question
de
recrutement et des moyens. J'insiste. Lorsque les gens ont les moyens de produire des documents, il faut que ces documents gardent les caractères naturellement embargo, donc confidentiel, jusqu'à autorisation. Mais tout n'est pas à proscrire, tout n'est pas à interdire. Et donc, il faut que les gens soient flexibles, de sorte que quand quelqu'un a le moyen de faire de la communication, il le fait avec beaucoup plus de sécurité. Il y a maintenant une frustration au sein de la presse présidentielle parce que les gens ne savent plus qu'est-ce qui est autorisé, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et nous sommes là en tant que responsables de la corporation pour rassurer tout le monde, quels que soient les domaines, que ce soit ceux qui travaillent dans les institutions, que ce soit les privés comme vous ici à Radio Capi, pour vous encadrer, pour vous donner des orientations, de sorte que votre métier, que vous le fassiez, parce que la presse est un pouvoir à part entière qui doit être considéré comme tel.
Jean-Marie et Kassamba, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir honoré l'ensemble de compatriotes qui aiment bien cette émission, Parole aux auditeurs, sur Radio Capi, ces cadres d'échange citoyens. À très vite d'ailleurs pour un autre numéro. Et nous disons merci à Polydore Basunga et à Pierrot Lamegi qui ont concouru à la production et à la réalisation de cette émission que nous avons eu le plaisir de présenter et de coordonner. Donc on se retrouve demain dans un autre numéro de Parole aux auditeurs. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.